Time Time Sport. Résultats, infos, analyse. Toute l'actualité sportive est dans Time Sport tous les jours de 20h à 21h avec Bilal Nenman sur Beurre FM.
Là, tout le monde connecté sur l'antenne de Beurre FM à la suite des informés d'Adil Farkan. 19h, 20h avec toute son équipe que vous pouvez retrouver dès demain. Là, c'est la place à l'émission phare qui est Time Sport, l'émission phare bien sûr de sport, l'émission qui est dédiée justement à tous les supporters, voilà, rien que pour vous sur l'antenne de Beurre FM, 20h-21h, la plage horaire. Zidane au menu de cette émission qui se confie chez nos confrères de l'équipe, on reviendra sur cette fameuse interview d'à peu près une vingtaine de pages. Le très très calme mercato marseillais justement, on reviendra aussi sur le club phocéen et les Bleus qui quittent décidément le podium du classement FIFA, anecdotique ou symbolique. N'oubliez pas, vous pouvez réagir sur l'antenne de Beurre FM au 01 53 48 3000. Le débat du jour, on le rappelle, quel avenir pour l'Olympique de Marseille. On vous donne la parole, on vous fait remporter aussi un magnifique bouquin aux éditions Solar, marque Cavendish. Voilà, pour le Tour de France à venir, ben ça serait pas plus mal pour tous les amoureux du vélo. On accueillera aussi dans cette émission, là on va rapidement commencer avec le JT Sport, mais sans oublier un combattant MMA pour la première fois avec nous sur l'antenne de Beurre FM, Youssef Bouhanem. Voilà, avec nous, justement. Alors, on va commencer avec le JT qui nous a été préparé par Jason. C'est parti.
Time Time Sport. Et oui, on démarre le JT du mercredi avec Mercato Football et une surprise côté transfert, c'est Christopher Nkungu qui prolonge du côté du RB Leipzig jusqu'en juin 2026. Le nouvel international français de 24 ans a donc choisi de confirmer en Bundesliga quelques mois du Mondial au Qatar sans risque de la part de l'ancien Parisien. Donc, on continue avec les jeunes français et Thomas Lemar qui lui est incertain quant à son avenir à l'Atlético Madrid. Son agent a affirmé ce jeudi que l'ancien Monégasque n'était pas fermé à une prolongation de contrat chez les Colchoneros, contrairement aux dernières rumeurs annonçant le contraire. Cependant, les dirigeants madrilènes n'auraient pas donné de nouvelles aux joueurs depuis janvier dernier. Son contrat expire pour info en 2023. En football toujours, la FIFA autorise les listes de 26 joueurs pour la prochaine Coupe du Monde au Qatar dans la lignée de ce qu'avaient connu les sélections nationales lors du dernier Euro par exemple, toujours dans l'optique de faire face aux répercussions de la pandémie Covid-19 et la période aussi inhabituelle au cours de laquelle la Coupe du Monde de la FIFA se déroulera entre novembre et décembre. Et un petit mot de tennis avec la Tunisienne Ons Jabeur, forfait pour la demi-finale de double à Esbourne avec Serena Williams en raison d'un souci au genou droit. La paire formée pour le retour de l'Amérique sur le circuit s'arrête donc après deux victoires dans la compétition. Voilà, c'est tout pour moi ce soir. On vous souhaite une bonne émission avec Bilal et toute l'équipe Time Sport.
Allez, on va commencer directement cette émission avec l'interview de ce soir qui nous a été préparée là aussi par notre journaliste Foudil avec justement l'invité qui n'est autre que Youssef Bouhanem, le combattant MMA. Allez, on y va.
Time Sport. The Special One. The Special. Time Sport, le coup de cœur.
Bonjour Youssef Bouhanem, merci de nous accorder cette interview. Bienvenue sur Beurre FM. À 17 ans, tu as quitté ta Belgique natale pour la Thaïlande, terre promise du Muay Thai. Qu'est-ce qui a motivé ton départ et comment étaient tes débuts ?
J'ai quitté la Belgique à un tournant de ma carrière où j'étais dans un moment charnière où je devais voilà, assurer et passer à autre chose, aller sur un autre circuit beaucoup plus dur. Donc à mes 17 ans, j'avais environ une quarantaine de combats pour autant de victoires et j'étais passé professionnel. Donc j'ai fait le sacrifice d'aller dans un pays qui est réputé mondialement pour sa compétition et ses combats hors du commun, comme Lumpini ou Red Shadaman, jusqu'à conquérir ses stadiums et à me surpasser. Donc voilà, c'était à 17 ans.
Dans le monde de la boxe, on t'appelle Terminator. D'où te vient ce surnom ?
Le surnom Terminator, c'est des médias qui les ont donnés. Après, les journalistes thaïlandais l'ont donné aussi. Ils appellent l'homme enfer, l'homme Terminator, le destructeur, etc., etc., des surnoms. Ils disaient Konlek, Terminator. Ils disaient alors l'homme enfer, l'homme dur, Terminator, tu vois. Et voilà, c'est devenu. Et puis après, ça a été repris par les médias occidentaux. Voilà d'où ça vient.
Tu as ton actif 205 victoires pour 240 combats. Tu as été titré près de 25 fois. Tu es le seul boxeur non thaïlandais à être champion de l'Omnoa Stadium, du Raja et du Limpin. Tu es une légende de la boxe thaï. Quel regard tu portes sur ta carrière et comment tu expliques l'éclosion de ce qu'on appellerait le phénomène Youssef Bouhanem?
On réalise pas toujours qui on est réellement. On se voit pas comment les gens nous voient. Avec le temps, avec la maturité, le recul, j'arrive à réaliser ce que j'ai fait. J'ai dû me surpasser, j'ai dû me dépasser dans ces moments-là. Et c'est un aboutissement dans lequel je suis fier et content. Et que je remercie de part et d'autre les participants, directs ou indirects, à tout ça. Parce que sans les autres, on n'est rien. Donc voilà, je remercie mon entourage Et je remercie même mes ennemis qui te font évoluer quelque part, hein, qui te créent des obstacles que tu dois surmonter. Et après moi-même aussi, hein, il y a des moments durs que toi-même qui peux les résoudre, hein, comme les pertes de poids, les combats, soigner les blessures, etc. Et surtout perdurer dans cette discipline qui est extrêmement dure et très difficile. Ouais, la boxe thaïlandaise, c'est un des sports les plus difficiles et les plus durs qui existent sur Terre. Ouais, j'ai beaucoup d'amour pour ce sport et je pense que je vais l'aimer à vie. Hein.
Durant ta carrière, tu as connu tout comme sportif les blessures et les déceptions. D'où tu puises ton énergie et ta motivation pour toujours te relever et te dépasser?
Durant ma carrière, j'ai connu, comme tout sportif, pas tout le monde, mais j'ai eu des blessures très graves, plus que d'autres sportifs. Des blessures que même les médias disaient que c'était fini, que je ne reviendrais pas. J'ai eu des problèmes difficiles, comme la triple fracture de l'humérus, de l'épaule, rupture des ligaments collatérales de l'épaule, et antérieure et postérieure, latérale des genoux, et des ligaments aussi des épaules. Après, ça se répare, mais c'est la mentale que tu as après, c'est comment tu te rééduques mentalement, et comment la blessure se rééduque. Après, toujours vouloir se relever, se dépasser, c'est d'en faire partie de l'athlète, hein. C'est des moments de résilience qui sont qui créent un caractère, une personnalité qui est bien au boxeur, qui est bien à la personne qu'on applaudit. Donc ouais, je remercie tous ces gens-là qui m'ont applaudi et qui continuent à m'applaudir. La faute quoi, mais merci beaucoup.
Tu es à la tête d'un centre d'entraînement à Pattaya, à Bruxelles, d'une marque de vêtements et d'équipements de boxe. Quelles sont les ambitions de Youssef Bouranem et ses projets?
Mes ambitions, écoute, mes ambitions et mes projets, dans la boxe thaïlandaise, ils sont toujours vers la boxe thaïlandaise. Après, j'ai des entraînements dans la MMA où je tenterai de conquérir un monde qui est pas le mien et qui va devenir le mien. Donc voilà, je vais tout mettre en œuvre pour ça. Ça va prendre quelques mois, peut-être quelques années. Et je vais y arriver tout doucement et je pense que ce sera l'achèvement pugilistique de ma carrière en plus de la boxe thaïlandaise et des titres que j'ai rassemblés. Ensuite, pour ce qui est personnel, l'éducation de mes enfants, c'est une priorité pour moi. Les mettre à l'abri financièrement. Et voilà. Merci beaucoup de réfléchir et de penser pour moi, hein, ce genre de choses. Et j'ai déjà mon plan sur ce truc-là. Je pense que ça devrait bien se passer.
L'humilité, le respect, le dépassement de soi, ce sont des valeurs qui te sont chères et qui ont toujours été au cœur de ta vie d'homme et de sportif. Et d'ailleurs, quel message tu as envie de faire passer aux jeunes?
Oui, en effet, l'humilité, le respect, le dépassement de soi, c'est des valeurs qui me sont chères et ça m'a toujours tenu à cœur en tant que vie d'homme et sportif. Mais ça, ce que j'aurais aux jeunes, c'est de se surpasser, d'être patient et d'être plus patient que la patience. Parce que parfois, il y a des résultats qui peuvent dépasser tout le monde, être hors du commun, être au-dessus des autres. Mais parfois, il faut se laisser du temps. Et aujourd'hui, on vit dans une génération où les jeunes, ils veulent tout de suite, tu vois. Ils passent un coup de fil, ils veulent une commande en ligne directement de repas, ils veulent directement un fringue, ils veulent directement devenir champion, ils ont 2-3 combats, ils te parlent différemment. Ouais, ça, c'est pas la route pour devenir qu'un, ça va. Moi, j'ai une centaine de combats et je parle à la personne de la même façon que la personne riche. Et je parle aux gros sportifs de la même façon que débutants. C'est super important le travail sur soi-même, sur l'humilité et aussi avoir le cœur pur, être bien allégé. On est beaucoup plus allégé quand on est correct avec son entourage et avec les gens qu'on rencontre que quand on les prend de haut. Ça, c'est mon message que j'ai envie de faire passer aux jeunes. D'être patient et de persévérer, de travailler dans le silence. Surtout dans le silence, très important.
Un dernier message à faire passer peut-être à tes fans en France, aux auditeurs de Beurre FM.
Mon dernier message que je dois faire passer aux jeunes Français et Françaises de la communauté musulmane ou immigrée ou de Français de souche. On va tous ensemble, le sport ça nous rassemble, la cohésion ça nous met tous ensemble. Et voilà, c'est un rassemblement qui nous enrichit, qui nous rend plus forts. Ensuite pour les auditeurs de Beurre FM, grande vie, longue vie à vous et je vous souhaite une agréable écoute chez Beurre FM.
Youssef Bouranem, c'est déjà la fin de cette interview. Merci d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que vous êtes un boxeur de Muay Thai, de nationalité maroco-belge et que vous comptez à votre actif plus de 20 titres de champion du monde.
À bientôt et prenez soin de vous et de vos entourages.
Voilà, une interview exceptionnelle pour Beurre FM, rien que pour vous, chers auditeurs et auditrices. Voilà, qui a été sagement préparée par notre journaliste Foudil, ici présent ce soir. Bonsoir Foudil.
Bonsoir Bilal, bonsoir à toute l'équipe. Bonsoir.
Comment ça va?
Ça va et vous allez bien?
Ça va très très bien. On va essayer de débattre avec toi jusqu'à 21h concernant Zidane et aussi l'actualité football et pas que. Sarah est avec nous ce soir. Comment ça va, Sarah?
Salut Abdel.
Oui Abdel, il n'y a pas de problème. Abdel, on pense à toi Abdel. Voilà. Ah ben le lapsus. Ah ben justement, hier, une bonne soirée en compagnie d'Abdel parce que c'était son anniversaire. Encore joyeux anniversaire à Abdel, notre consultant.
Donc salut Abdel, voilà. Ça va très bien. Merci ouais. Et toi?
Ah ben ça va très très bien. Achille est de la partie ce soir. Comment ça va Achille?
Ça va.
Tranquillement?
Les nuits sont courtes, mais ouais. Ça va, j'espère que tout le monde va bien et tout le monde se porte bien.
Il est assez serein. Boula, juste en face d'Achille, comment ça va Boula?
Alhamdoulilah.
Ouais, tranquillement Boula. Ah ben justement, on va parler avec Boula et pas que. Il est encore avec nous pour la seconde fois sur l'antenne de Beurre FM, c'est Simbad. Comment ça va, Simbad?
Bah, ça va super. Très content d'être là encore une fois.
Ah ben, nous aussi.
Hâte de parler football.
Eh ben, on va parler football.
Il y a beaucoup, beaucoup de choses à dire.
Ah ben, justement, il y a pas mal de choses à dire et on va commencer de ce pas avec concernant Zizou.
Sport. Le sujet des sociaux. Le sujet des sociaux.
Zidane, entraîneur au Paris Saint-Germain, il ne faut jamais dire jamais, Simbad. On l'aura entrevu peut-être dans les rues de Paris, mais c'est vrai qu'on le cherche toujours et peut-être ça sera un certain Galtier qui arrivera dans la capitale française pour ce grand club qui est le Paris Saint-Germain. Alors tu en penses quoi ?
Bah, au moins déjà, beaucoup de personnes ne se sont pas trompées. C'est bien un Marseillais qui sera le coach du Paris Saint-Germain.
Ouais, ouais, ça c'est...
Donc de ce point de vue-là, l'accent aussi ne change pas. Donc les conférences de presse, on aura le même timbre de voix. Mais plus sérieusement, quand le Paris Saint-Germain sait que Pochettino va partir depuis quasiment un an et que ça fait un an que tu négocies avec Zidane et qu'en un an, il n'était jamais dit oui, tu ne peux pas te plaindre d'avoir Galtier finalement. T'imagines, tu travailles pendant un an pour avoir Zidane. En un an, il te dit même pas oui une seule fois. Et bah finalement, tu te trouves avec Galtier et c'est que ta faute. T'as pas travaillé pendant un an. Et bah au final, bah c'est Galtier qui est là.
Comment est-ce que tu peux assurer
Alors, il a deux infos. Comment tu peux assurer? Ouais, vas-y, la réponse.
Ah
alors.
Si t'as des infos.
C'est mal. Ah ben ce soir, il y en a pas qui ont d'infos. Bah, on va voir Boulin, on va voir Achille aussi. Hein. Ouais, toi aussi peut-être.
Bah non, mais pour le coup, ma source, c'est Nasser Al-Khelaifi lui-même.
Ouais.
Donc quand Nasser Al-Khelaifi me dit que Zidane ne va pas venir au PSG. Moi, Nasser Al-Khelaifi,
quand il te dit
qu'il
ne lui a jamais parlé, tu le crois aussi?
Non, faut bien faire la part des choses. Non, mais il faut bien faire la part des choses.
Ouais.
Tu sais, on a la capacité de discernement d'une information de l'une à l'autre. Mais quand moi, Nasser Al-Khelaifi me dit que Zidane ne sera pas le coach du Paris Saint-Germain et qu'il te dit de facto qu'il travaille avec Nice pour faire signer Galtier, moi, je le crois. Je le crois à 100%. Après, c'est.
Oui, mais tu me dis que tu le crois pas quand il te dit qu'il ne lui a jamais parlé.
Pour pas perdre la face. C'est normal.
Oui.
C'est un discours.
Ça veut dire que tu te contredis.
Non,
tu te contredis quand tu dis faut pas qu'il perde la face.
Bah oui, faut pas faire de la face.
Il y a des gens qui veulent savoir la vérité. Il y a des gens.
Mais lui, il a dit la vérité. On n'est pas là pour attaquer Simbad quand même.
Commence pas à défendre.
Bon, mais non.
Tu peux pas aujourd'hui te permettre de dire. Ils n'étaient pas en contact.
Je n'ai pas dit ça.
Ah, il n'a pas dit ça, oui.
Ouais, mais c'est pas une vraie source, parce que tu te contredis.
Ah, d'accord.
Alors.
Nasser n'est plus une source.
Ouais. Voilà. Mais comment? Mais ça, c'est Boula qui le dit, oui.
Parce que, faut que tu saches que Zidane, il discute pas avec Nasser. Il discute avec le GIR.
Il a discuté aussi avec Nasser, non?
On sait qu'il a eu plusieurs visites. Ce qu'il faut savoir,
ça veut dire que tu l'as savoir quand même.
Non, je ne le dis pas.
Mais si tu dis qu'il a eu plusieurs visites, c'est que ça veut dire qu'ils étaient en discussion.
Oui, c'est ce que j'ai dit. J'ai dit que pendant un an, ils ont négocié et que pendant un an, tu n'as pas eu de réponse positive.
Ouais.
Chose qui s'en est suivie.
Ça, voilà, c'est bien dit.
Pendant un an, tu négocies. C'est un secret pour personne que pendant un an, tu négocies avec les deux. Pendant un an, il n'y a aucune réponse positive. Donc, forcément, tu te rabats sur Galtier. C'est ça la vérité.
Quand tu discutes pour un an, maintenant j'arrive pas à comprendre. Il nomme un entraîneur qui s'appelle Pochettino.
Ouais.
Je pense que c'est déplacé de sa part. S'il discute en même temps que Pochettino travaille, il discute avec un autre coach.
Oui, c'est déplacé, mais ça fait un an.
Ah, ça va, tu reconnais quand même qu'il est déplacé un petit peu de sa part. Il manque de professionnalisme, mais au niveau. Après, il faut pas qu'il se demande pourquoi il ne gagne pas la Ligue des Champions.
Alors, Simbad,
je n'ai jamais dit que c'était bien. Je dis simplement les faits qui ont été relatés, les faits qu'on a suivis parce qu'on a tous le téléphone, on a tous Twitter pour suivre les événements. Et la suite des événements ont été lesquels?
Alors,
on a vu que pendant ça fait combien de temps que Pochettino veut partir? Ça fait 6 mois qu'il était venu. Il a dit je veux partir. Paris l'a bloqué. Donc ça fait depuis un an que tu sais que Pochettino veut partir.
On n'en sait rien ça non plus.
Mais comment ça on n'en sait rien?
Alors
c'est des bruits de couloir. C'est des
Les couloirs font beaucoup de bruit alors.
En même temps c'est le monde du foot et c'est le Paris Saint-Germain.
Paris, il y a beaucoup.
Donc Pochettino n'a jamais voulu partir.
Mais on n'en sait rien. Mais
on en a débattu en plus en émission. C'est vrai.
C'est pas son rôle de vouloir partir. Il vaut mieux qu'il parte avec un chèque.
Alors
qu'il dit j'ai envie de partir.
C'est bon. Là il va gagner. Là tu sais quoi? Il y a un chiffre qui est très très drôle. Pour avoir coaché pendant un an et demi, le Paris Saint-Germain aura versé à Pochettino la somme de 30 millions.
Alors,
30 millions pour avoir coaché pendant un an et demi. Donc forcément, lui, il est content.
Intéressant.
Paris va le licencier parce qu'il lui reste encore du contrat. Et au final, c'est lui qui est gagnant dans l'histoire.
Alors, Simbad, on regarde Simbad au show. Oui. Allez, vas-y.
Je suis pas tout à fait d'accord avec toi.
Et pourquoi, Foudil? Apporte tes propos.
Ouais, voilà. Du moment que tu dis qu'il a négocié avec un entraîneur, sachant qu'il a un entraîneur sur place, j'imagine que c'est un manque de respect.
Ouais.
Parce qu'il a un entraîneur qui est sur place, ça fait un an et demi déjà, qui a remporté des titres. Certes, il s'est fait éliminer de la Ligue des Champions, mais ça arrive au plus grand club. Et pour me dire aussi qu'il a négocié avec Zidane, quand je me réfère à son interview d'avant-hier, il avait dit clairement qu'il n'a jamais été en contact avec Zidane, ni directement ni indirectement. Certes, tu dis qu'il se voit la face, c'est à lui de voir, mais je vois pas un président du Paris Saint-Germain se voiler la face devant des milliers de supporters. Et aussi pour Galtier, je suis sûr et certain que Galtier n'est pas le premier choix du Paris Saint-Germain. Le premier, c'était certes peut-être Zidane. Le deuxième, c'était Mourinho parce qu'il les intéressait. Le troisième, c'était Galtier. Mourinho, pour l'instant, je le vois pas quitter l'AS Rome parce qu'il a un contrat qui le lie à son club. Il a des objectifs aussi, mais le fait de dire qu'il n'a jamais été en contact, qu'il a été en contact avec Zidane et que hier il fait une interview dans l'équipe et qu'il dit je n'ai jamais été en contact avec lui, ni directement ni indirectement.
Alors
je vois qu'il y a un fossé.
Déjà t'as dit un truc de faux. T'as dit
alors que oui c'est bad.
Ouais. T'as dit parce qu'il faut parler football. T'as dit que Pochettino a gagné des trophées.
Ouais.
Faux. Il a gagné un seul trophée qu'est la Ligue 1. Donc déjà ça c'est quelque chose qui a mettre
en de France.
Mais il a gagné quand même. C'était ça fait
bah bravo projet. T'as perdu le trophée des champions pour la Coupe de France. Il a gagné. Éliminé honteusement. Donc si moi pour moi tu dis que il a gagné, même moi tu me mets au poste de Pochettino. Même moi les trophées je les remporte. Et le trophée des champions
avec l'équipe.
Le trophée des champions même moi je peux le gagner si tu veux.
C'est pas facile dans le Paris. Ouais,
ça avance,
mais en fait, ce qu'il faut dire, c'est que dans les négociations, personne n'a dit que Galtier n'était le choix numéro 1. Tu regardes, tu fais la liste des coachs qui t'ont dit non. Il y a Conte qui s'est proposé à toi. Tu lui as mis un vent. Mourinho, ça a été démenti en deux heures.
Conte,
Amorim, t'es parti le voir.
Ah, mais Conte, c'est pas une référence.
Conte
n'est pas une référence.
Ah non, pas du tout. Il peut pas entraîner Paris avec
Conte.
Avec les joueurs de qualité qu'il a, avec son système défensif, avec un bloc vachement défensif.
Dire que le système de Conte est défensif quand il a été la meilleure attaque de Serie A quand il était en poste
pendant deux ans. Non, mais tu connais dans quel état la Serie A.
Alors,
la Serie A, on les voit plus en Ligue des Champions. Je sais pas.
Il a noté. Sebad, vas-y.
Du jour, au moment où il est arrivé, il me semble, vers le 16 ou le 20 novembre 2021, si tu fais un championnat du 16 au 20 novembre jusqu'à la fin de la Première Ligue, il est la troisième meilleure attaque de Première Ligue. Derrière lui, il y a des monstres que sont Liverpool et Manchester City.
Sinon, faut pas négliger
tout le monde. Donc, me dire que Conte, c'est un système qui est défensif, alors qu'il fait de Harry Kane et de...
Il n'est pas défensif, Conte.
Non. Il fait de...
Il a pris Lukaku en Italie. Parce qu'il savait très bien qu'il lui manquait quelqu'un, une masse athlétique, mais c'est un côté que défenseur.
Il fait de Heung-Minson le meilleur buteur de la Première Ligue sans avoir même tiré un seul penalty. Il fait de Harry Kane le meilleur passeur ou deuxième meilleur passeur du championnat cette saison.
Il s'ennuie Harry Kane avec lui. Harry Kane c'est un joueur pour le Real, pour le Barça. C'est pas un joueur pour Tottenham.
Mais on n'a jamais dit le contraire.
Non, mais je sais pas si tu veux parler. Si tu veux parler football, je sais pas.
Un football là.
Mancini. J'espère que Mancini, si demain il est disponible,
le fameux Mancini qui a pris 3-0 contre l'Argentine.
C'est pas grave, c'est pas grave, si tu veux. Voilà, il se la rappelle.
C'est le côté international.
Ouais,
ça,
on a finalisé
Mancini. En termes d'image, il vaut mieux prendre un Mancini que Galtier.
Faut-il rapidement avant la pause, la première.
Simbad, tu avais dit qu'il a remporté un seul titre. Non, il en a remporté trois. C'est le championnat de France, trophée des champions et la Coupe de France. C'est pour ça que j'ai dit trois trophées.
Ça castagne pas mal ce soir avec Simbad qui a débarqué dans le studio de BFM avec Foudil et Boula.
Ta relation avec.
Tu vas pas parler de relation quand même. Et toi, Boula. Ben toi aussi, Boula. Arrête, Boula. Mais c'est pas Boula qui va nous dire ça, Simbad.
Je voulais juste revenir sur un truc.
Oui, rapide. Sarah. Ah ben justement, Sarah, tu gardes en tête, on va marquer d'une courte pause et on revient rapidement avec Sarah et aussi Achille concernant Zidane.
Time Time Sport revient dans un instant. 20h, 21h, Time Sport avec Bilal Nenman sur Beurre FM.
Et de retour sur l'antenne de Beurre FM, 20h et 24 minutes, toujours en live jusqu'à 21h avec toute l'équipe de Time Sport. Avec des dates à noter sur vos calendriers, chers auditrices et auditeurs de Beurre FM, avec justement l'association franco-berbère de Morsan-sur-Orge, justement le festival culturel Amazir. Ça aura lieu ce dimanche 26 juin. Voilà, l'entrée est totalement gratuite au programme. On aura des aux ventes avec la poterie, des livres, des robes, des bijoux et bien plus encore à la découverte de cette fameuse culture amazigh à travers des stands vraiment très chouettes. Et aussi à partir de 16h, vous retrouverez un sacré concert. Voilà. Et aussi, encore, on poursuit le dimanche 26. Là, ça serait plutôt dans le sport. Et on va s'attarder sur quoi? Sur un tournoi, tous ensemble, avec Vacandi. Voilà, c'est le trophée Vacandi qui aura lieu, cette sixième édition. Eh ben justement, ça se passera le dimanche 26 juin, aux mêmes horaires, parce qu'il devait avoir lieu le 25, mais non. C'est donc dimanche 26 juin, au stade Léon Rabault, à l'île de Puteau, aux deux allées Georges Assou, voilà, dans le 92. Eh ben justement, il y aura un match de bienfaisance au profit du handicap parrainé par un certain Boula Mustapha Daleb. Voilà, participation du groupe Djurdjura. Rien de plus simple. Vous avez toutes les infos concernant cela. Uber FM aussi est partenaire. Il y aura une sélection camerounaise et face à la sélection des sportifs algériens de France et d'Europe, les amis d'Algérie.
Les anciens joueurs de 82.
Ah ben voilà, aussi. Voilà, ça c'est pour plus d'infos, vous contactez Boula ou sinon vous avez tout sur les pages Facebook, justement, sur les réseaux sociaux, notamment pour le fameux festival à Mazières du côté de Château-Morsang-sur-Orge. Voilà, il y a tout qui est sur Facebook. Nous, on revient à Zidane, au Paris Saint-Germain, avec Simbad, avec Sarah, notre consultante, Foudil pour nous accompagner, Boula et Achille. On n'a pas entendu Achille, hein. On va donner la parole à Sarah, qui Achille, voulait t'en parler concernant Zizou. On t'écoute.
Oui, non, non, juste revenir brièvement sur ce que tu disais, Simbad, sur le fait d'avoir démenti, de s'être entretenu de façon directe ou indirecte avec Zidane, etc. etc. Tu disais qu'il... Il le dément pour pas perdre la face. Mais tu ne penses pas que le démentir, c'est pire? C'est justement pire?
Bah si.
Donc bah, si, finalement, mais... il perd quand même la face.
Bah, en fait, j'ai expliqué ce qu'il a fait. Je n'ai pas donné mon avis sur la question. Je t'ai expliqué qu'il a fait ça pour ne pas perdre la face. Mais je n'ai pas dit que c'était la bonne stratégie à adopter. J'ai simplement relaté les faits par rapport à ce que lui a fait. Mais en aucun cas, c'était la bonne stratégie à adopter. Pour moi, en disant qu'il n'a pas parlé avec Zidane, alors que c'est plus ou moins d'une autorité publique qui parle avec Zidane depuis un an, lui dire qu'il a parlé avec personne, c'est d'une part un mensonge, alors, et d'autre part assez humiliant, parce que d'une certaine manière, il n'assume pas d'avoir perdu ce dossier-là. Donc oui, je suis d'accord avec toi, il a perdu la face, c'est sûr.
Fougil.
Mais Simbad, j'aimerais juste te poser une petite question.
Vas-y,
quand tu disais tout à l'heure, par exemple, qu'il ne s'est jamais entretenu avec Zidane, et ensuite, dans son entretien dans le journal de l'équipe, il dit que c'est la fin des paillettes. Est-ce que tu ne penses pas qu'il perd sa crédibilité aux yeux du monde entier et aux yeux des dirigeants du Paris Saint-Germain, ainsi que des joueurs aussi?
Bah, la fin des paillettes, c'est un peu un discours démago qui sort depuis plusieurs années, 2019, 2020, 2021, 2022. Croire à ce discours-là, c'est la fin des paillettes, c'est pas vrai. Il était prêt à mettre Monts et Merveilles pour récupérer Tchouaméni. Si demain, il y a le gros crack qui sort et qu'il faut poser plus de 100 millions, paillettes pas paillettes, il ira mettre l'argent. On nous dit c'est la fin des paillettes, mais tu veux faire venir Lewandowski. Moi, je trouve que c'est juste un discours auquel on devrait plus croire.
Est-ce qu'il n'a pas sa place, Lewandowski, au Paris Saint-Germain?
Non, moi, mon avis personnel, c'est que je n'en veux pas. Après qu'il ait sa place ou pas, c'est un autre débat. Mais pour revenir sur les strass et paillettes, c'est simplement une question de bien-pensance, de dire oui, ça y est, on a appris de nos erreurs. On fera les bilans quand ce sera l'heure des bilans. Là, la seule chose qu'on peut dire, c'est qu'avec l'arrivée de Campos, on a une toute autre direction sportive. Ça, c'est évident.
Alors, c'est quand même assez intéressant, parce qu'il y a plusieurs points de vue. On doit se poser et savoir, en fait, qui dit vrai, qui dit faux. Quelle est la stratégie, la bonne, la mauvaise? Ce qui était quand même assez intéressant, c'est qu'il y avait une certaine lassitude de la part des supporters, même de la part de certains de nos confrères dans les médias,
pour
dire que cette équipe du Paris Saint-Germain est bien trop internationale et pas assez nationale, et que c'est un souhait un petit peu de tout cet écosystème PSG qui gravite autour. Et on s'aperçoit que le Paris Saint-Germain prolonge Kylian Mbappé avec un discours qui lui est tenu, avec des garanties qui lui sont apportées. Et le premier acte fort, c'est Luis Campos. Luis Campos, qui n'est absolument pas francophone.
Mais avec une bonne gestion.
Mais ouais, la gestion.
Il a toute l'expérience qu'on lui connaît. Sa démagogie aussi. Et quand on sait que le Paris Saint-Germain était sur certaines pistes bien engagé, contrairement à ce que certains peuvent dire, avec des internationaux français, et qu'on dit et qu'on s'aperçoit que dans les médias, on voit qu'il y a des pistes portugaises systématiquement qui ressortent. au détriment de joueurs français, quand internationaux.
Quand tu dis joueurs français, tu fais allusion à qui plus exactement?
Internationaux, ben, on va en parler.
Quand tu vois Mini, la signe au Real Madrid.
Alors, Pogba, quand, on voit, non, mais quand on voit Pogba.
Pogba, on sait qu'il va partir à la Juventus.
Alors, c'est dans les tuyaux. Attention.
Alors.
Parce qu'il faut bien que certains... après, je peux comprendre aussi, Fodil, parce que tu es supporter du Real Madrid.
Non, oh, quand même, mais non.
De ce côté-là, il faut bien
ça n'a rien à voir.
Non, mais il faut bien le préciser. Attendez la signature, l'officialisation, avant de parler. Vous pouvez avoir de belles surprises sur n'importe quel joueur qui existe, ni même entraîneur.
Parce que là, on parle de joueurs français, c'est pour ça.
Justement. Et donc, quand on parle de Paul Pogba ou d'Ousmane Dembélé, jusqu'à preuve du contraire, personne ne les a vus avec un maillot d'un club pour dire voilà l'officialisation. Donc jusqu'à présent, il faut être prudent, il faut attendre, parce que ça fait plus de plus d'un mois et demi que soi-disant il a signé, il s'est engagé avec la Juventus de Turin, mais c'est qu'un feu de paille quoi en fait.
Après, si je peux me permettre, quand tu prends l'interview de Nasser et que tu l'entends dire le bling bling c'est fini, et Strass et Payet pareil. Je doute du coup qu'il aille chercher un mec comme Pogba.
Ben, tu vois, après, c'est un peu paradoxal. Non, mais il faut quand même remettre les choses dans le contexte. Il s'adresse pas à un joueur bling bling en tant que tel. Qu'est-ce que c'est un joueur bling bling? Mais,
Pogba, c'est l'archétype du bling bling.
Eh ben justement, non.
En tout cas, vu les joueurs, moi, il y a un truc que je regarde, c'est que vu les joueurs qu'ils ont,
d'un point de vue extérieur, c'est le bling bling.
Mais vu les joueurs qu'ils ont déjà. Au PSG, moi, quand il veut prendre un mec comme Pogba, moi un joueur comme Paredes, pour moi, c'est des vrais joueurs de football. Maintenant, il y a un truc qu'il faut comprendre, c'est que c'est marrant parce que quand ils arrivent de Paris, c'est des bons joueurs et après les joueurs,
ouais, mais c'est Pogba devenu.
Pogba, il va pas par rapport aux deux ans qu'il a passé à Manchester United. Je pense pas. Qu'il a le compétiteur, c'est pas un compétiteur, parce que quand tu réussis Manchester United.
Je suis pas d'accord avec ça,
il faut quand même arrêter de faire du délit de faciès sur certains joueurs. Et en l'occurrence,
c'est pas du délit de faciès. Tu regardes les problèmes qu'il a eu à Manchester United.
Quand je dis ça, c'est-à-dire qu'on qualifie Paul Pogba d'un joueur bling bling, mais en oubliant que ça reste un joueur de foot qui a des qualités intrinsèques exceptionnelles.
L'un n'empêche pas l'autre.
Celui qui l'a relancé, tu sais très bien que c'est Deschamps.
Justement, il y a la jurisprudence Didier Deschamps qui a réussi à montrer et à démontrer au monde entier le potentiel d'un Paul Pogba et potentiellement, je l'espère, d'un Ousmane Dembélé. Donc pourquoi aujourd'hui, et c'est ça que je trouve ça regrettable, c'est que encore une fois, la direction que prend le Paris Saint-Germain à travers Luis Campos n'est pas forcément une direction nationale, mais une direction internationale. Et quand on voit qu'aujourd'hui, vous avez la possibilité de recruter deux joueurs de ce calibre-là gratuitement, il y a ce facteur-là qui est gratuitement. Pour moi, c'est une grossière erreur de passer totalement à côté et que tôt ou tard, Luis Campos le paiera.
Par contre, quand tu parles de délit de faciès, il y a un truc qu'il faut que tu saches. Moi, je connais Pogba, je le connais. Je sais comment il travaille, je sais comment il fonctionne. Oui. Par contre, il y en a un qui dit rien, qui est tout dans l'éducation. C'est Tchouaméni. Il était à Bordeaux. De Bordeaux, il a été à Monaco. De Monaco, il va au Real de Madrid. Dis-moi, est-ce que c'est la même gestion que Pogba? Et par contre, aujourd'hui, Tchouaméni, le Real, il l'avait dans sa tête depuis un an. Et aujourd'hui, il a signé au Real. Moi, ce que j'aime pas chez les joueurs, sur certains joueurs, à un moment donné, il faut pas qu'ils sortent de leur... Là, quand tu vois Tchouaméni, en termes d'image, tu vois vraiment un joueur de haut niveau.
Alors, c'est ça qui est gênant. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous avez un joueur comme Paul Pogba qui arrive à utiliser et à maximiser son image en dehors du terrain. Et qui effectivement, malheureusement, on ne voit pas beaucoup sur le terrain parce qu'il a eu beaucoup de blessures, il y a eu beaucoup de problèmes personnels avec Manchester United. Mais en fait, on privilégie exclusivement son côté marketing.
Bien sûr.
Donc, c'est lui qui exploite sa propre image. Et en l'occurrence, je trouve qu'il l'exploite super bien.
Oui.
Excuse-moi de te couper quand tu me dis.
Moi, je vais te couper, Boula. Et je vais couper aussi Achille.
Achille, excuse-moi de te couper.
On s'éloigne. Moi, je m'en fous là des.
L'humain. Je te dis, c'est un super mec.
Ouais.
Humainement, c'est un bon mec. Je l'ai vu faire des interventions par rapport à ce qui se passe dans le monde. Je le trouve extraordinaire. Maintenant, il y a un truc qu'il faut qu'il sache. Il y a un truc qu'il faut qu'il sache, Pogba. paix à son âme, il est plus de ce monde, son agent. À un moment donné, la gestion qu'il y a eu autour de lui, elle a pas été faite, elle a été faite comme un produit, elle a pas été faite comme un joueur de football. Ouais. Et le problème de Pogba aujourd'hui, tu regardes la preuve. Il a pas joué en équipe de... pourquoi il n'était pas à l'Euro?
Merci, Boula. Merci, Hachem. Ça, c'est un autre problème, hein.
Alors, il y a quand même
un truc sur Paul Pogba, la pioche.
Qui va ou qui va pas. C'est pour ça que Paris se pète pas dessus. Parce qu'ils savent très bien. La Juve, qu'est-ce qu'ils font? Ils sont malins. La Juve, ils ont pas d'argent. Ils
merci,
ont pas
Boula.
Par contre, où il est intelligent, Boula. Il va se relancer à la Juve.
Merci, Boula, pour ta masterclass concernant les agents de football. Encore une fois, Boula, c'est pas le sujet, mais bon. Foudil, vas-y, enchaîne sur le Paris Saint-Germain. C'est pas le sujet, Boula. C'est pas le sujet. C'est pas le sujet. Mais oui, t'as lancé sur Pogba, mais c'est pas le sujet. On aura le temps, on aura le temps. Il n'y a plus de match. Je vais te faire une émission rien que sur Paul Pogba. Il n'y a pas de problème. Mais moi, j'aurais aimé parler de Zidane aujourd'hui. En plus, c'est son anniversaire. Toi qui le connais bien.
J'ai juste une question pour Achille. En parlant du Paris Saint-Germain, est-ce que tu penses que Paul Pogba fera l'affaire au Paris Saint-Germain? Est-ce qu'il aura des garanties pour venir? Parce que s'il vient, automatiquement, il demandera un statut.
Alors, je te garantis qu'effectivement, oui, s'il signe au Paris Saint-Germain, il a un statut, il sera respecté.
Un statut titulaire, indiscutable?
Oui. Bah, jusqu'à preuve du contraire. Je me pose la question, qui peut se permettre de ne pas mettre Paul Pogba titulaire quand tu vois l'état de cet effectif?
José Mourinho, s'il était sur le banc du Paris Saint-Germain, je parie ce que tu veux qu'il jouera pas.
Oui, mais José Mourinho est sur le banc de l'AS Rome. Et il est parti pour y rester.
Et ça, ce qui est bien, c'est
partant
que.
De là,
et j'ai une autre question aussi. Pourquoi, selon toi, Paul Pogba, quand il était à Manchester United, sous la coupole de José Mourinho, n'a pas réédité les mêmes performances qu'il avait à la Juventus?
Bah non, c'est pas vrai.
C'est pas vrai. C'est deux contextes totalement.
Il a raison. La Juve, c'était quand même. C'était un grave.
Attends, Achille.
S'il te plaît, rapidement, il faut. C'est deux contextes totalement différents. C'est un joueur qui arrive à l'âge de 19 ans du côté de la Juventus de Turin. Il est entouré, mais peut-être des meilleurs milieux de terrain de la planète.
Bien sûr.
Avec un coach qui est peut-être.
Rapidement, Achille, c'est la pause.
Avec Allegri. Et là, quand il revient à Manchester United, c'est le désert de Gobi.
Oui.
Mais juste, c'est pas vrai. Quand tu parles de Paul Pogba à Manchester, je suis d'accord avec toi. Mais Paul Pogba, ses meilleures années à Manchester, c'était sous Mourinho.
Exactement.
Il prend l'Europa League en étant élu meilleur joueur de l'Europa League. Mourinho. Il est élu, il met des buts de folie et réalise sa meilleure saison sous Mourinho.
Merci.
Donc me dire qu'il n'a pas réalisé ses performances de la Juve à Manchester, je suis d'accord avec toi. Mais les statistiques.
C'est-à-dire qu'il lui faut un entraîneur discipliné.
Non, mais en fait, le problème,
c'est-à-dire qu'il lui faut un entraîneur qui est avec une discipline de rigueur et de travail.
En fait, on est en 2022, on a la chance d'avoir les télés, on a la chance d'avoir les matchs. Ils sont en 4K, ils sont filmés par des gens, des drones, et on peut voir les matchs en replay et encore. Donc quand on regarde les matchs et qu'on regarde la saison de Paul Pogba sous Mourinho à Manchester, c'est le meilleur joueur de Manchester et de très loin.
Pour moi, le meilleur Pogba que j'ai connu, c'est à la Juve et à l'Euro. Sinon, il n'aurait jamais acheté 100 millions.
Mais personne n'a dit l'inverse.
Allez, vous restez avec le cher auditeur de Beurre FM. On va revenir avec l'Olympique de Marseille.
Time Sport revient dans un instant. 20h, 21h, Time Sport avec Bilal Nenman sur Beurre FM.
Et de retour sur l'antenne de Beurre FM, 20h41 avec Boula, Foudil, Sarah, sans oublier Simba dans la joie et la bonne humeur avec Achille aussi. N'oubliez pas, le numéro du standard, c'est le 01 53 48 3000. Après Paris, alors on descend dans le sud de la France pour rejoindre Marseille.
Time Sport, la troisième mi-temps.
Ne vous inquiétez pas, chers auditeurs et auditeurs de Beurre FM, la voix que vous entendez juste après la mienne, c'est celle de Boula. Voilà, Boula, il aime bien retrouver Ossine, qui nous appelle depuis la cité phocéenne, le 01 53 48 3000, et peut-être encore Fouad, justement Marseille, la DNCG, l'OM qui s'en sort bien. Eh oui, Sarah, Simbad, Foudil, Marseille. Oui, plus personne parle. Ok, mais Marseille. On va prendre Ossine, l'auditeur. Bonsoir Ossine, je crois qu'il y a un peu trop de supporters parisiens sur le plateau. Comment ça va?
Bonsoir les amis parisiens, bonsoir mes amis. Vous êtes mes amis parisiens. Vous
ça Ossine, justement.
Nous on est des Marseillais et vous les Parisiens, vous êtes nos amis.
Alors, Marseille et son mercato.
Ben écoute, Mercato, ils sont tranquilles, quoi. Je veux dire, ils veulent passer de bonnes vacances en attendant. Donc, c'est calme, hein.
Ouais.
Ils parlent d'une offre de prêt pour Nuno Tavares.
Alors?
Donc, est-ce que c'est intéressant ou pas? Déjà, quand on parle de prêt, on a compris, hein. On a compris qu'il n'y a pas grand chose qui va changer, hein. On a entendu que Georges Sampaoli, il se sentait de moins en moins bien sur Marseille.
C'est vrai.
Donc voilà, il y a des petites tensions qui se créent. Donc là, ils sont partis pour un petit programme assez sympa au niveau de la remise en forme, on va dire. Et du coup, voilà, c'est quelque chose qui est assez simple. Donc, est-ce qu'on va avoir un grand Marseille?
Ça, on ne sait pas.
Je ne sais pas. Franchement, c'est quelque chose.
Alors, Sarah, Achille.
Ouais. Il y a une restructuration, là, en interne. Qu'est-ce que tu en penses?
Oui, par rapport à comment il s'appelle, Largué aussi, il a été écarté, me semble, ouais, par rapport
à la formation marseillaise.
Exactement. Elle a été écartée. Donc, du coup, il y a eu beaucoup de nettoyage.
Il est parti sans un sou, hein.
Il a été réglé. Il y a eu beaucoup de jeunes qui ont été écartés aussi. Hein. Il y a eu beaucoup de jeunes du centre de formation qui ont été écartés.
Aïe.
Ils appellent ça, ils ont fait un nettoyage, mais un gros nettoyage.
Ouais.
Est-ce que ça explique peut-être un changement de propriétaire, je ne sais pas.
On verra bien. Alors peut-être des infos. Allez, là aussi, les ennuis du côté de Paris, mais aussi à Marseille avec Achille, Foudil, c'est mal.
Il faut être alarmé en fait. Parce que Marseille n'a pas d'argent.
Oui.
Marseille n'a pas d'argent. Et en l'occurrence,
encore une fois,
c'est le propriétaire, M. Macourte, qui va devoir réinjecter donc des fonds dans les finances marseillaises pour pouvoir avoir un équilibre et pouvoir passer l'examen de la DNCG, même si, effectivement, ils ont fait une mention d'appel. Mais Marseille ne vend pas. Marseille n'est pas attractif d'un point de vue marketing. Et c'est ça le réel problème de l'Olympique de Marseille. Et là, quand on voit, effectivement, comme Sarah l'a si bien dit, une restructuration en interne du club, tous les signaux vous font dire que l'Olympique de Marseille est en vente. Et
ouais.
Là, pour le coup, quand tu vois Jorge Sampaoli, qui est... et d'ailleurs, je le disais, milieu de saison dernière,
alors
je sentais que Sampaoli, ne soyez pas surpris, qui décide de claquer la porte.
Voilà, un peu comme Marcel Bielsa à l'époque.
Après, faut se mettre à sa place. Il qualifie Marseille en Ligue des Champions. Et quand tu vois un mec comme Macourt, et je pense que les supporters, je crois que j'arrive pas à comprendre les supporters, comment ils peuvent pas réagir au niveau de l'actionnaire. Normalement, quand tu vois un mec comme Aulas, il a fait venir un actionnaire. Quand tu vois le PSG, mais à quel moment vous allez faire venir un actionnaire qui tient la route financièrement?
Il y en a plein des actionnaires qui sont intéressés, mais le problème c'est la gestion. Quand ne serait-ce que juste cet aspect-là, la billetterie. Mais c'est hallucinant que l'Olympique de Marseille n'ait pas l'intégralité du contrôle de la billetterie de son propre stade. C'est impossible ça. Et juste avec ne serait-ce que ce paramètre-là, comment voulez-vous que des investisseurs extrêmement solide puisse arriver et dire bon bah écoutez on va injecter des fonds.
Après ils avaient de l'argent au début,
ça a été mal géré aussi.
Non, ils ont jamais eu d'argent. Macourt il a menti de A jusqu'à Z.
Non mais sur les joueurs qu'ils ont achetés, il y a des chiffres, des joueurs qui le méritaient. Quand tu vois le salaire que prenait Strootman, alors, et le trou béant que ça prenait.
D'ailleurs il est toujours là.
Quand tu parles de gestion,
après
ils avaient de l'argent à moindre mesure, mais qui a été très mal utilisé.
Non mais quand vous parlez de gestion, moi quand je regarde David Friot et Mathieu Louis-Jean, il est entre la formation et un truc. Moi, je trouve que c'est très très bien organisé. Et en plus de ça, c'est pas des opportunistes, c'est pas des escrocs. Je connais très très bien ces mecs-là. C'est des mecs qui travaillent. Longoria, il a fait le boulot. Il a mis ces mecs en place parce qu'ils veulent un nouveau Marseille. Et ça, comme a dit Sarah, qui structure le club, ils ont raison.
Bien sûr.
Moi, je pense que ils sont en train de blinder tout au niveau en bas. Pour demain, il y a une pépinière de joueurs qui va arriver. Parce que l'argent, elle coule pas à flot à Marseille.
Ouais.
Et ils ont pas encore un actionnaire qui tient la route.
Merci Boula. Foudil, quel avenir pour l'Olympique de Marseille au 01-53-48-3000? Vous faites comme Fouad.
Mais moi, je suis d'accord avec Achille quand il dit y a pas d'argent. Parce que quand on regarde des départs, il y a William Saliba qui rentre à Arsenal, Camara qui part à Aston Villa gratuitement, Amin Harit, fin de prêt aussi, et Lucas Perrin, le tout. 4 départs pour 1,5 million d'euros.
Ah ben là,
c'est ça la question qu'il faut se poser.
Là, Telle est la question, merci de le rappeler.
Oui, je ne parle pas des salaires pour l'instant, je parle juste des départs. Il n'y a aucune rente d'argent.
Mais
au-delà de ça, c'est pour ça qu'il faut dégraisser au niveau de l'effectif.
Même si tu dégraisses, le réel problème de l'Olympique de Marseille, et c'est, vous voyez, le paradoxe, tout le monde tape sur le Paris Saint-Germain.
Ouais.
En faisant du bling bling, ça gagne pas. Mais en attendant, même alors, si ça gagne pas, il y a de l'argent qui rentre dans le, club. Et l'Olympique de Marseille, c'est ça le problème.
La présidence Ferro, elle a tué le club. Ouais. La présidence Ferro,
ça rentre en
toute proportion. Ouais. Quand on regarde ce qu'a pu faire un Bartomeu avec l'argent qu'il a eu, il a coulé le club. Ce que Héro a fait avec le, alors
ouais, c'est effroyable peut-être.
Non mais Macourt, il a injecté quand même de l'argent.
C'est vrai. Il a injecté.
Il a injecté. C'est quoi mettre de l'argent dans un club comme ça?
Si je compare au Paris Saint-Germain, ça c'est sûr.
Le seul que je respecte qui a mis de l'argent, c'est Robert-Louis Dreyfus,
non,
pas son âme.
Il a injecté à moindre mesure, mais avec l'argent qui a été injecté, ce qu'a fait Héro avec le club, c'était catastrophique. Et je suppose que notre ami qui est avec là, qui est avec nous,
Ossine, ouais, l'auditeur,
peut nous le confirmer.
Ouais, on va revenir avec Ossine et Fouad. Allez, Fouad, rapidement.
Et la question qui reste posée, c'est que le recrutement de l'OM, on a l'impression qu'il ne recrute plus, mais par contre, il se focalise beaucoup plus sur des prêts.
Ouais.
Avec Under, avec la S-Rom, le gardien de but aussi qui arrive, Amin Harit qui arrive en prêt. C'est-à-dire, on a l'impression que l'Olympique de Marseille n'a plus d'argent. Pour compenser ça, ils font directement
des... Mais il y a un truc qui est bien, c'est quand même du beau travail. Arriver, deuxième. Quand t'as pas d'argent, qu'est-ce qu'ils font? Les mecs qui travaillent, ils se mettent en place, ils prennent des joueurs revanchards. Et en plus de ça, ce que j'ai kiffé, c'est que c'est des internationaux français.
Allez, Fouad, 01 53 48 3000, on l'écoute. Bonsoir, Fouad.
Bonsoir à tous.
On vous écoute, Fouad. L'Olympique de Marseille pour vous, le mercato. Oui.
Ah, moi, je suis parisien, mais ça me fait mal au cœur, l'Olympique de Marseille.
Ah oui, pourquoi?
Là, faut se réveiller. Hein. Le 6 septembre, il y a un truc qui s'appelle la Champions League.
Ah oui.
L'Olympique de Marseille, ils ont moins 6 mois à jouer.
Ah oui.
Avec cet effectif.
Aïe, aïe, aïe.
Ça fait peur. Pointé, faut être honnête. On demande
ça
pas l'Olympique de Marseille de
jouer
en 8e de finale. Ouais. Moi, j'aimerais bien voir l'Olympique de Marseille.
Même aussi, là, qui est là avec nous à l'antenne.
Bien sûr. Ça va être compliqué, mais au moins sortir la tête haute, engranger des points, faire quelque chose de sympa pour leurs supporters. Ils ont la première fan base de France, si je dis pas de bêtises.
Ouais.
Et ensuite, après, c'est un peu ça le problème des supporters de l'OM, en fait, parce que leur fan base, c'est quoi? C'est la France, l'Afrique, et c'est tout.
Et encore.
On va pas se vexer, ils vont pas se rapporter un copec.
Ouais. Quand même, Fouad.
Il a raison. C'est-à-dire qu'aujourd'hui,
t'as une fan base du PSG qui est en Asie, qui est aux États-Unis. C'est bon, ça rapporte de l'argent.
Il a totalement.
Mais l'Olympique de Marseille, faut vendre la marque.
Il a totalement raison. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'Olympique de Marseille se trompe de combat. Et en l'occurrence, il devrait penser à développer la marque de l'Olympique de Marseille, parce que mine de rien, il y a des armes, il y a des outils pour pouvoir développer.
Mais Marseille est là.
Mais justement, ils ont commencé à vouloir le faire sur le continent africain.
Oui.
Mais ça fonctionne pas.
Ah
ça
oui. Selon pas. Toi, ça fonctionne pas. Ça fonctionne Marseille pas. Sur le continent africain.
Ça ne fonctionne plus aujourd'hui. Oui. Vous allez en Afrique.
Alors.
On parle beaucoup plus du Paris Saint-Germain.
Oui.
Parce qu'il y a des stars.
Oui.
Parce qu'il y a des joueurs qui sont bankable.
Mais faut mettre les pieds dans le plat. L'Olympique de Marseille est un club qui n'a pas de buzz.
Après, l'Olympique de Marseille. Selon Simba.
Je suis pour ma paroisse, mais par exemple, le PSG, quand les Qataris sont arrivés, ils ont commencé à tout créer autour de cette marque, à bien l'implanter. Alors oui, c'était tout de suite star, bling bling, etc., etc.
Mais ça génère des profits.
Et voilà, et on peut reprocher au Paris Saint-Germain d'avoir fait les choses à l'envers. Enfin, voilà. Mais là, force est de constater qu'aujourd'hui, exactement, il y a une stabilité
financière.
Exactement.
Une stabilité financière.
Boston, je crois, c'est ça?
Ouais, c'est ça.
Quand vous parlez de Marseille, je pense que vous ne connaissez pas bien le club. Je pense déjà, pour commencer, ils ont gagné la Coupe aux Grandes Oreilles. Ils ont gagné la Ligue des Champions. Alors. Marseille, ce que c'était avant. Non mais tu peux. Non mais aujourd'hui, vous avez l'impression de. Même avec une équipe, une équipe moyenne, n'avait pas d'argent, ils arrivent à se qualifier pour les joueurs.
Alors aussi, Marseille n'a pas besoin de faire du buzz, c'est ça.
Le problème des médias. Le problème
terminé.
L'Olympique de Marseille n'a pas besoin de faire du buzz. L'Olympique de Marseille, c'est le supporter en lui-même qui fait du buzz.
C'est pour ça que l'Olympique de Marseille n'est pas bon.
C'est une ambiance de folie et les gens qui aiment ça.
Bien sûr, aujourd'hui,
on est dans une nouvelle ère. On est dans une nouvelle ère où le marketing.
Marseille respecte le supporter.
Bien sûr, aujourd'hui, on est dans une nouvelle ère où le marketing a une place extrêmement importante. Et aujourd'hui, si tu ne fais pas rentrer.
C'est le premier club, l'Olympique de Marseille, si tu veux, c'est le premier club à être aimé au niveau de la France.
Non, mais, non, ouais. Alors là, on rentre dans un débat sans fin avec Ossine. Un grand merci, Ossine.
Même si on peut aimer Marseille autant qu'on veut.
Ouais.
Mais ça amène pas de l'argent.
Ça amène pas de l'argent à l'Olympique de Marseille.
C'est dur de travailler derrière Héros et Rudy Garcia.
Ouais. Ouais. Avec c'est la fin. Avant on va laisser ça.
Ouais. 750 000 euros.
On parle souvent des transferts. Vas-y. La question qui reste posée.
Alors.
C'est que le transfert, certes, l'OM pour l'instant n'est pas actif, mais il n'y a pas que l'OM. Si on regarde bien, nous sortons d'une période post-Covid. Automatiquement, tous les clubs sont en crise. On regarde, par exemple, on prête attention au Real Madrid. Au Real Madrid, ils ont récupéré des joueurs qui sont limite gratuits. En l'occurrence, Rudy Garcia, par exemple, il est venu gratuitement.
C'est vrai, sacrément gratuit, toi, Mini.
C'est une batte qui clash, ça, c'est pas mal.
Il
a donné des exemples, c'est vrai.
Mais typiquement, l'OM.
On termine.
Oui, certes, l'OM n'est pas actif, mais il n'y a pas que l'OM.
Merci, Foudil. Un grand merci. Achille, on n'a plus trop le temps. Un grand merci.
L'Olympique de Marseille travaille sur les formations. Et un centre de formation qui soit compétent.
Merci Achille, merci Sarah, merci Simbad pour cette venue et encore Boula, merci à toi, merci à la réalisation, à la personne de Yanis. Et on se retrouve dès demain, la suite des programmes sur l'antenne de Beurre FM avec Vanessa qui arrive.
Retrouvez Timesport tous les jours de 20h à 21h et en podcast sur beurrefm.net et l'appli Beurre FM.